Olivier Cadet, je travaille au bureau d'études AMIDEV qui intervient beaucoup dans les Pyrénées
Ok.
pour divers projets d'aménagement. Question de simple curiosité aux trois premiers intervenants de ce matin. Il a beaucoup été question de fort déboisement pour la métallurgie. On a ça aussi un peu dans les Hautes-Pyrénées sur quelques massifs. Et je voulais savoir si, en termes. Après, on a eu une question sur le réchauffement, une intervention sur le réchauffement climatique. Si il y avait eu des essais par les météorologues de quantifier l'impact climatique de ces grandes phases de déboisement et j'imagine des grands dégagements de gaz carbonique à cette époque-là. Alors je ne sais pas parmi vous
Ouais.
qui pourrait me répondre.
Question à tiroir. Qui veut répondre? Aurélien Ribes. Allez.
J'ai pas ma réponse, vous ne plaît pas trop. Sur les périodes de temps qui sont en jeu ici, là, donc plusieurs siècles ou quelques millénaires, on n'a pas observé, on a des observations assez précises des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, et on n'a pas observé de variations significatives. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait déjà eu un impact de l'homme sur le climat via, en parlant, et le principal mécanisme, c'est la modification de la végétation et des stocks de carbone associés. Mais ça semble être très mineur par rapport à ce qui s'est passé sur la période industrielle, quoi.
Est-ce qu'un autre intervenant ou une autre intervenante veut compléter? Jean-Paul Métayer.
Pour ne pas répondre à la question, mais pour signaler que cet aspect-là a été un grand sujet de débat, par exemple, au XIXe siècle, où il était question du changement climatique apporté justement par le déboisement, puisqu'on était dans la phase généralement 18e, 19e, en France en tout cas, en Europe en général, de plus faible recouvrement forestier. Et il y a eu beaucoup de débats sur le fait que ça entraînait des vents plus violents, que ça entraînait des pluies, enfin, ou au contraire. Enfin. Mais en fait, ce qui se passait à cette époque-là, effectivement, il y avait des événements relativement violents au XIXe siècle, mais on peut les corréler avec l'évolution climatique qui était celle de la fin du petit âge glaciaire, et qui a été une période de perturbation climatique générale. Et bon, jamais il y a eu de réelles preuves apportées qu'un déboisement précis pouvait entraîner des effets climatiques précis. Et ensuite, je n'ai pas de réponse non plus.
Bernard Defoe, j'interviendrai cet après-midi. Un élément à ajouter au dossier, c'est que le bilan de la photosynthèse est nul. C'est-à-dire que la formule chimique fondamentale de la photosynthèse, simplifiée, on peut dire si CO2 plus 6H2O donne, c'est 6H12O6, donc 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau donnent une molécule organique, mais la respiration et la décomposition des cadavres aboutit à une minéralisation de la matière organique. Et la formule, c'est C6H12O6 donne 6 CO2 plus 6H2O. Donc c'est un élément du dossier aussi à prendre en compte. Monsieur.
Marc Dumont, agriculteur à la retraite. L'augmentation brutale de la population lors du dernier siècle, disons 20e siècle, et l'augmentation soit de la température, soit des concentrations en gaz à effet de serre par habitant. Est-ce que quel est plus on va être nombreux sur Terre et plus l'augmentation de consommation de biens et de chaleur et de tout ce qu'on voudra va être importante. Donc, comme on était beaucoup moins nombreux, disons, ne serait-ce que 16e, 17e et 18e siècle, quel est le rapport d'augmentation? On ne l'a pas vu, cette courbe. On a une courbe générale de la planète, mais pas par tête d'habitant.
Juste pour dire là que. Effectivement, ces courbes existent. Elles ont été confectionnées, un peu théorisées par des historiens du climat, notamment, qui ont appelé ça le syndrome des années 50. C'est-à-dire que on a effectivement des courbes qui montent au cours du XXe siècle, mais il y a une rupture de toutes les courbes de production, enfin de consommation d'énergie, de production agricole, de population, de production industrielle, de consommation de gaz, etc. Et à partir des années 50, la fameuse courbe que l'on voit, qui est corrélée aussi vraisemblablement à cette évolution, toutes les courbes de l'activité humaine prennent la tangente. Il y a réellement un phénomène qui s'est passé à partir des années 40-50 sur le globe. et qui a été suivi de ce que d'autres historiens appellent le syndrome des années. En tout cas, 20 ans plus tard, les premières manifestations, je dirais, de prise de conscience écologique et de ces phénomènes de surconsommation extrêmement abrupte entraînés à l'échelle du globe.
Oui, je suis plutôt d'accord, hein, dans le sens où, donc je ne l'ai pas montré, mais les émissions ramenées par habitant ont augmenté aussi considérablement au cours du siècle. Je ne veux pas dire de chiffres comme ça parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Mais il n'y a pas que l'effet démographie. Alors évidemment, si on cherche à réduire les émissions, ben, ça peut être garder les mêmes émissions par habitant et être deux fois moins nombreux. Ça marche aussi. Et ensuite, sur la partie, justement sur le troisième volet du rapport du GIEC, en fait, il y a un effort pour décomposer les variations d'émissions en termes de démographie, ensuite de revenus économiques par habitant, d'intensité énergétique d'une unité économique, donc en général c'est le PIB qui prime, mais pour chaque unité de PIB, et enfin d'intensité en carbone d'une unité d'énergie. Donc il y a bien ces quatre termes, et pour l'instant le débat et les solutions envisagées se concentrent principalement sur les deux derniers, donc la quantité de carbone nécessaire pour fabriquer de l'énergie et la quantité d'énergie nécessaire pour une unité de PIB, de développement économique, et on discute assez peu des deux premiers termes.
Merci. On peut passer à une troisième question.
Suzanne de Chevigné, directrice de recherche au CNRS émérite depuis peu. Je voulais poser un peu la question inverse de la première. Est-ce qu'on a une idée de l'impact probable du changement climatique à venir sur les forêts ariégeoises en général ?
Dans le détail, je ne sais pas. Mais par principe, plus il y a de CO2 dans l'air, plus les plantes en profitent. Et à la fois en termes de climatologie en montagne, il y a un allongement de la saison végétative, ça, qui est clair, et ensuite les plantes poussent plus vite avec plus de CO2 dans l'air, si je ne me trompe pas. Alors je peux aussi simplement, je ne sais pas si c'est lié au changement climatique, mais dans les procédures de suivi d'évolution des paysages que l'on a, notamment avec en utilisant les photographies anciennes et les suivis actuels, on s'aperçoit, je commence à avoir assez d'ancienneté pour me rendre compte qu'à partir des années 80, il y a une véritable explosion de la croissance de la végétation. C'est assez spectaculaire. Bon, les facteurs sont évidemment multiples, mais il y a eu depuis 30 ans un phénomène d'accroissement de la vitesse d'expansion, on va dire, des forêts et des friches.
Juste une précision, après, ce qui peut poser problème, c'est cette forte croissance de la végétation qui a été clairement caractérisée dans des forêts du Nord américain. Entraîne en effet un développement des forêts, mais à un moment donné, ces forêts ont besoin d'eau, de beaucoup d'eau. Donc si le problème de la ressource en eau se pose avec le réchauffement, avec des périodes de sécheresse notamment, elles peuvent aussi avoir un impact inverse sur ces forêts, mais pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas d'informations plus précises.
Bernard Defoe.
Je vais parler de cela un peu, enfin je vais l'évoquer dans mon intervention de cet après-midi, mais en gros, en bioclimatologie, on considère qu'il y a deux grandes catégories de climats, des climats qui sont sous la dépendance principale de l'aridité climatique et d'autres qui sont sous la dépendance principale de la température. Et je vous montrerai que la zonation de la végétation en altitude dans les Alpes et les Pyrénées, on la retrouve en latitude du sud au nord de l'Europe occidentale, et le gradient est de 0,55 degrés Celsius à peu près par 100 mètres d'élévation en altitude ou par 100 km de déplacement vers le nord en plaine. Voilà, donc avec un réchauffement de 3,4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, les zones de végétation françaises, l'étage montagnard des Alpes et des Pyrénées, l'étage subalpin qui lui fait suite, etc., montraient en altitude de 600 mètres à peu près, et en latitude se déplacerait de 600 km à peu près. Ce qui fait qu'on peut prévoir la végétation méditerranéenne actuelle de Nice et de Cannes, pas très loin de la région parisienne. Voilà. Mais enfin, bon. Après, une question de vitesse aussi. Est-ce que le réchauffement n'est pas beaucoup... Ça aussi, je vous montrerai des planches qui montrent que peut-être le réchauffement climatique attendu sera beaucoup... sera très rapide et que ça posera des gros problèmes d'adaptation à la végétation.
Concernant cette histoire de remontée forestière, je voulais juste rajouter quelque chose. J'ai travaillé en contexte alpin pendant de nombreuses années et les travaux paléo-environnementaux, en particulier l'étude des charbons dans les sols, ont démontré que la limite supérieure de la forêt était bien plus élevée par le passé, après le retrait des glaciers, la végétation est montée en altitude. Et on retrouve dans les Alpes, des Alpes, des traces d'arbres jusqu'à 2900 mètres d'altitude, d'arbres anciens, avec une végétation dense qui a pu s'élever jusqu'à 2700 mètres d'altitude, alors qu'actuellement, on a des zones supraforestières à partir de 2900 mètres d'altitude. Donc cette remontée des forêts est clairement liée à une déprise des activités humaines en haute montagne, et pour l'instant, c'est difficile de la corréler avec la question climatique.